Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
La Formule 1 a toujours été un sport injuste. Par exemple, certains pilotes se sont retrouvés sans baquet du jour au lendemain, alors que leurs résultats en piste étaient somme toute plutôt convaincants. Mais ce qui est arrivé à Logan Sargeant en Australie est beaucoup plus rare. Vous n'avez pas pu rater cet épisode. Alex Albon a gravement endommagé sa monoplace en essai libre, suffisamment pour devoir changer le châssis. Le problème, c'est que son équipe n'avait pas prévu de châssis de rechange, et le grand patron, James Vowles, a donc demandé à Logan Sargeant un service pour le moins ingrat. Il a dû laisser sa monoplace à son coéquipier, et donc rester sur la touche pour le reste du week-end, alors que lui n'avait absolument rien demandé. C'est comme si votre collègue débarquait tranquillement chez vous pour prendre votre voiture, sous prétexte que la sienne est cassée. La situation a dû être terriblement difficile à vivre pour lui. C'est un sacré coup sur la tête pour un pilote qui a déjà cruellement besoin de confiance en ce moment. Ce qu'il s'est produit chez Williams ce week-end-là peut sembler honteux, et très honnêtement, ça l'est. Mais au-delà du cas de Logan Sargeant, je trouve que ça pointe du doigt des dysfonctionnements extrêmement importants dans cette équipe. Comment peut-on se retrouver sans châssis de rechange à ce moment-là de la saison? Même si ces événements sont produits il y a un petit moment, j'étais obligé de revenir sur cet épisode avec vous. Williams a-t-il eu raison de sacrifier Logan Sargeant, alors que lui n'avait rien à voir avec cette histoire à la base? Pourquoi n'était-il pas suffisamment bien préparé? On s'attaque à ce sujet tout de suite. Un pilote qui offre sa monoplace à son coéquipier, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Par exemple, ce bon vieux Will Buxton nous rappelait sur Twitter qu'en 1956, Peter Collins avait offert à Fangio sa Ferrari, ce qui lui a permis de remporter le titre cette saison-là. Bon là, on est quand même à une autre époque, et c'est tout de même choquant quand tel épisode se produit aujourd'hui. La première chose à analyser dans cette histoire, c'est si la décision de Williams par rapport à ses pilotes est la bonne. On peut commencer par dire que ce qu'a vécu Logan Sargeant est profondément injuste. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec ça, car l'avis de chacun sur ce qu'est la justice peut différer d'une personne à l'autre. Mais à titre personnel, j'estime que Sargeant est en quelque sorte un dommage collatéral d'un événement totalement hors de son contrôle, et qu'il ne méritait certainement pas le traitement qui lui a été réservé. Ceci étant dit, et ça va peut-être vous sembler contradictoire, je suis d'accord avec la décision de James Vowles. On peut commencer par dire qu'en tant qu'employé Williams, Sargeant est sans doute au courant des limites structurelles de son équipe, et donc il doit avoir conscience que ce genre de situation peut arriver. Si son écurie a bien fait son boulot, elle est censée l'avoir préparé à ce scénario, c'est-à-dire l'avoir prévenu qu'au début de la saison, ils n'auront que deux châssis, et que si celui d'Albon venait à être cassé pour X raisons, eh bien c'est lui qui serait sacrifié. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne, mais j'espère que son équipe l'a bien informé de ça. Maintenant, il est la victime principale d'une erreur de son coéquipier, c'est dur de le priver d'un week-end de Grand Prix à cause de ça. Mais ici, c'est justement une logique sportive qui a poussé son patron à l'écarter au profit d'Alex Albon. Rappelons qu'en 2023, Alex Albon sait, à un point près, l'intégralité du résultat comptable de son équipe. Sans lui, ils sont derniers du championnat au lieu de 7e. Il a rapporté des résultats, de l'argent, de la visibilité, il n'a jamais perdu face à Sargeant en qualification. Pas besoin d'en dire plus pour comprendre que le boss de Williams, c'est lui. Oubliez un instant son accident à Melbourne, on met ça de côté. Imaginez que vous n'ayez qu'une seule voiture de disponible, et vous avez le choix entre Logan Sargeant et Alex Albon pour vous lancer en piste. En sachant que vous êtes en bas de tableau, et que l'an dernier, il n'y avait que 16 points d'écart entre la dernière place au constructeur et la 7ème. Vous avez également conscience que chaque place gagnée au championnat rapporte plus d'argent à votre équipe. Votre équipe étant en pleine reconstruction après beaucoup d'années de galère. Que faites-vous ? Vous confiez la monoplace à celui qui porte votre équipe à bout de bras depuis 2 ans ou à celui qui a marqué des points une seule fois dans sa vie ? Humainement parlant, le management de James Vols est absolument terrible pour Logan Sargeant, mais il n'est pas dénué de logique. D'un point de vue sportif pur et dur, il a favorisé le pilote qui avait le plus de chances de marquer des points. Il a mis l'aspect humain au second plan sur ce coup-là. Et si c'est vraiment regrettable, ça montre aussi la réalité qui vivent les écuries de bas de tableau. La gestion des égos des uns et des autres, ça lui passe au-dessus. Lui, ce qu'il veut, c'est remettre son écurie sur le droit chemin. Et il a préféré privilégier un style de management froid dans cette situation. Je ne sais pas s'il a raison d'agir de la sorte, parce qu'il y a tout un tas de paramètres humains notamment qu'on ne connaît pas, et qui sont propres aux relations qu'il entretient avec ses pilotes et ses employés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact n'est pas uniquement sur Sargeant. En le privant de Grand Prix, il envoie aussi une partie de ses mécaniciens au repos, et il pénalise tous ceux qui travaillent autour de lui, son ingénieur de course par exemple. Sur le long terme, ça peut avoir un impact sur la confiance de Sargeant, et donc sur sa performance. Le pire dans tout ça, c'est qu'on lui a refilé le châssis réparé à Suzuka, pas son châssis originel. Mais l'ironie de l'histoire, c'est qu'il est parti à la faute lors de la première séance de ses libres ce week-end. Fort heureusement pour eux, le châssis n'est pas endommagé. Ça serait bête de rouler avec une seule voiture une nouvelle fois. Il a sauvé son siège en F1 in extremis l'an passé, et lui est super déterminé à prouver qu'il mérite cette prolongation. Maintenant, la F1 c'est le top du top du sport automobile, et quand tu évolues à ce niveau-là, tu dois savoir rebondir même dans les moments les plus difficiles. Tout de même, Logan Sargeant se retrouve dans une situation particulièrement honteuse suite à cet événement. Déjà qu'il était perçu comme le pire pilote de la grille, ce geste de son écurie peut être vu comme un vrai manque de confiance de la part de sa direction, qu'il n'a pas jugé capable de marquer des points. Alex Albon n'a pas réussi à le faire non plus en Australie, mais ils ont fait le maximum pour que ce scénario se produise. C'est comme ça, ça ne peut pas fonctionner à tous les coups, mais j'espère en tout cas que ça leur servira de leçon pour le futur. Ce qu'il s'est passé à Melbourne montre les faiblesses du groupe Williams. Vous savez que l'écurie a longtemps été la pierre de la grille, et si ça va mieux depuis l'an dernier, eh bien il va leur falloir encore longtemps avant de pouvoir s'immiscer dans le milieu de tableau. Williams a des limites budgétaires, mais surtout structurelles. L'apparition du budget plafonné a permis aux écuries d'être plus proches en piste. On a pu constater ces 2 dernières saisons que les écarts d'une équipe à l'autre sont sensiblement moins importants qu'il y a 5 ou 6 ans par exemple. Maintenant, le budget plafonné ne fait pas tout. Williams, comme toutes les petites écuries, est surtout handicapé par ce qu'on appelle le CAPEX. Je vous en avais déjà parlé l'an dernier dans une vidéo sur Alex Albon. Je vous ressors la définition du fameux journal du net.com, qui définit le Capital Expenditure, ou CAPEX, comme l'acquisition d'immobilisation corporelle et incorporelle par une entreprise, dans le but d'améliorer ses performances. Corporelle peut être une nouvelle machine, tandis qu'incorporelle pourrait désigner un nouveau logiciel d'analyse de données par exemple. À la base, les écuries étaient autorisées à dépenser un maximum de 45 millions de dollars sur 4 saisons, sur la période 2022-2025. Les écuries peuvent choisir de dépenser cet argent comme elles le souhaitent, par exemple 3 millions cette saison et 30 l'an prochain. Le CAPEX a des avantages et des inconvénients. D'un côté, ça limite les grosses écuries comme Red Bull ou Ferrari, qui possèdent déjà des infrastructures extraordinaires, et qui désormais ne peuvent plus dépenser 100 millions comme ça du jour au lendemain. Sauf qu'à côté de ça, une écurie comme Williams ne peut pas non plus dépenser des masses pour améliorer ses infrastructures, et ce même si elles ont les fonds disponibles immédiatement. C'est le cheval de bataille de James Vols, qui a supplié la FIA de revoir ses règlements pour aider son équipe à rattraper les écuries de devant. Et vous savez quoi ? Sa demande a été entendue. Les 4 écuries les moins bien classées depuis 2020, Racing Bulls, Haas, Sauber et donc Williams, sont désormais autorisées à dépenser 65 millions de dollars sur cette même période, soit une augmentation de 20 millions. C'est plutôt pas mal, et Vols s'en réjouit certainement, mais ce n'est pas encore suffisant pour qu'ils rattrapent leur retard. D'autant plus que le CAPEX a également été augmenté pour les autres écuries, un degré moindre certes, mais une écurie comme Ferrari saura sûrement que faire de ces 5 ou 6 millions supplémentaires accordés. Williams a besoin de cet argent aujourd'hui. S'ils n'ont pas été capables de faire rouler leurs 2 monoplaces à Melbourne, c'est parce qu'ils n'ont pas les ressources pour produire un châssis de rechange à ce moment-là de la saison. D'un point de vue infrastructure, James Vols disait que dès son 2e jour dans l'équipe, il a compris qu'il aura besoin de 6 ou 7 ans et de beaucoup d'argent pour changer tout ça. Ils produisent certaines parties de leur monoplace avec des technologies vieilles de 20 ans, et ils utilisent un vieux fichier Excel pour trouver où sont tous les composants de la monoplace. Cette histoire de fichier Excel, c'est absolument lunaire. On dirait que les gars sont encore sur Windows XP. Ils ont un vieux document actualisé manuellement, et il disait même qu'il avait parfois besoin de chercher certaines pièces par lui-même dans l'usine pour les trouver. Quand on voit ça, on comprend que les employés de Williams doivent redoubler leurs efforts pour assurer un bon développement de la voiture, et c'est presque miraculeux qu'ils aient réussi à connaître un exercice comme celui de l'an dernier. C'est un bordel organisationnel, désolé mais il n'y a pas d'autre terme, et les changements à mettre en place sont titanesques. Williams affiche donc beaucoup d'envie ce week-end à Suzuka, une envie d'oublier cet épisode malencontreux qui s'est produit à Melbourne. Ils ont réussi à réparer le châssis d'Albon à temps, ils croiseront les doigts pour que rien de fou ne se passe cette fois-ci. Car oui, ils n'ont toujours pas de châssis de rechange, et a priori, cette situation devrait durer jusqu'au Grand Prix de Miami, dans un mois. Cela prouve qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire en interne. Mais si l'on en croit Will Buxton, encore une fois, ce n'est pas la seule écurie dans ce cas-là, ce qui prouve qu'ils sont loin d'être un cas isolé. Alors que Haas et RB ont déjà accumulé des points, il est crucial pour Williams de se relever, et de s'inviter à cette table le plus vite possible. Ils ont fait le choix de partir sur un nouveau concept de monoplace cette saison. Pour le moment, ça n'a pas franchement payé, mais on leur souhaite de décrocher des résultats le plus vite possible. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Donnez-moi votre avis en commentaire sur la situation chez Williams. Est-ce que vous trouvez que le traitement réservé à Logan Sargeant est juste ou non? Moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de visibilité. Je vous souhaite un excellent week-end de Grand Prix, et on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.